Le journal est présenté par Maxime Fayolle. Bonjour Maxime.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. La commémoration du 25e anniversaire du génocide au Rwanda. Plus de 800 000 Tutsis ont été massacrés. Une horreur vécue et racontée par un écrivain rwandais. Il avait 7 ans en 1994 et Nathanaël Charbonnier l'a rencontré.
La situation en Libye inquiète la communauté internationale. Le G7 et le Conseil de sécurité de l'ONU demandent au général Haftar d'arrêter son offensive vers Tripoli. Hier soir, des combats ont eu lieu près de l'aéroport de la capitale.
Nous irons en Algérie où les manifestations continuent après le départ du pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika, une démission qui n'est pas suffisante pour les Algériens. Le reportage de Leïla Berato.
Les Gilets jaunes continuent aussi de se mobiliser pour la 21e semaine consécutive. Ils sont attendus en nombre à Saint-Nazaire aujourd'hui pour structurer leur mouvement.
Et nous parlerons d'un nouveau magazine pour enfants qui voit le jour. Il s'appelle Chica. Son but, déconstruire les stéréotypes de genre pour les petites filles de moins de 12 ans. Et l'invité de la deuxième heure des matins du samedi, Caroline Brouet.
Déconstruit peut-être aussi les stéréotypes liés aux Britanniques qui sont nos voisins et encore membres de l'Union Européenne. Pour combien de temps? C'est la grande question. Il est historien, il a pour nom Robert Frank et il vient de publier « Être ou ne pas être européen, les Britanniques et l'Europe du XVIIe siècle au Brexit ». Je crois que vous avez compris de quoi nous allons parler.
À tout à l'heure. Plus de 800 000 tués, 800 000 Tutsis décimés en 1994 au Rwanda, dans l'un des génocides récents les plus meurtriers. Le pays commémore ce week-end le 25e anniversaire de ce massacre et les langues continuent à se délier au fil des années. Témoignage ce matin d'un écrivain rwandais, auteur du livre « Ma mère m'a tué ». Nathanaël Charbonnier l'a rencontré.
Il s'appelle Albert Nsanjimana, il avait 7 ans en 1994 et 32 ans aujourd'hui. Il est né d'un père Tutsi et d'une mère Hutu et son histoire illustre combien ce qui s'est passé au Rwanda est impossible à imaginer.
Comme je le dis, c'est vraiment difficile. Comment imaginer qu'une mère emmène son enfant pour être tué?
Et d'expliquer encore que sa mère a fait pareil pour son frère, elle les a emmenés tous les deux vers les machettes des Hutus pour qu'ils soient tués. Et même lorsqu'il a revu sa mère lorsqu'elle était en prison, il n'a jamais eu d'explication sur ce geste insensé.
Si elle était encore en vie, j'aimerais lui demander pourquoi elle a emmené son fils se faire tuer.
Alors bien sûr, Albert s'en est sorti avec de la chance, beaucoup de chance, et lui ajoute aussi avec l'aide des cieux.
J'aime regarder le ciel et quelquefois je me dis que je crois en Dieu.
Pour approcher le génocide rwandais, il faut à la fois regarder les 800 000 morts de 1994, mais aussi le Rwanda d'aujourd'hui. Hutu et Tutsi vivent à nouveau ensemble et cela n'est possible pour Albert que s'il y a pardon.
La première chose, si vous voulez être libre dans votre cœur, c'est de pardonner aux autres.
Et Albert Nsanjimana de conclure en expliquant qu'il croit plus que jamais en son avenir et en celui du Rwanda.
Et la responsabilité de la France pose toujours question dans ce conflit rwandais. Plusieurs suspects sont réfugiés dans notre pays. Leur traduction en justice prend aujourd'hui beaucoup de temps. Emmanuel Macron a annoncé hier le renforcement des moyens mis à la disposition de la justice pour poursuivre ces éventuels responsables. Ce qui est une bonne chose pour le journaliste Nicolas Poincaré, ancien grand reporter pour Radio France lors du génocide.
Qu'on donne plus de moyens pour rechercher les coupables qui se sont réfugiés en France, il serait temps, parce que ça fait 25 ans qu'ils sont là, et on sait où ils sont, on sait qui c'est, on connaît leur nom, on sait ce qu'ils ont fait, etc. Les procès, il y en a eu deux pour l'instant, il y en a peut-être deux autres qui se dessinent, des personnes qui ont été renvoyées, bon, c'est pas beaucoup, il y en a beaucoup plus qui sont là. Depuis les premiers avions français qui ont évacué les ressortissants français au tout début du drame, puisqu'on a envoyé une opération militaire pour évacuer les Français qui vivaient à Kigali, et ben avant ces Français, on a évacué la veuve d'Abir Manal, le président, et un certain nombre de ses proches qui étaient, on peut pas dire coupables de génocide, parce que le génocide commençait à peine, mais enfin qui étaient les idéologues qui avaient préparé le terrain pour ce génocide. On les a rapatriés en France avant qui que ce soit. On leur a offert un bel appartement dans le 16e arrondissement de Paris. Mitterrand avait mis un bouquet de fleurs pour la veuve sur le bureau dans l'appartement. Donc, on n'a pas besoin de les chercher très loin. On sait où ils habitent, les génocidaires. Ça fait 25 ans qu'on devrait leur courir après et qu'on ne le fait pas. Alors, tant mieux si Emmanuel Macron dit aujourd'hui que la justice aura plus de moyens pour les poursuivre.
Nicolas Poincaré avec Audrey Dumain. La communauté internationale appelle au calme en Libye. Le pays connaît une nouvelle flambée de violence après les déclarations du général Haftar de vouloir avancer vers Tripoli. Des combats ont d'ailleurs eu lieu hier au sud de la capitale entre les forces loyalistes et celles de l'armée nationale libyenne conduite par Haftar. Mais la situation sur place reste très floue, Maureen Mercier.
On vient d'apprendre que nos troupes ont récupéré l'ancien aéroport international de Tripoli alors que Haftar assurait s'en être emparé. On ne comprend plus rien. Pour cet habitant de la capitale qui scrute les nouvelles et s'inquiète, la seule chose qui semble être une garantie, c'est que si une guerre venait à éclater, elle s'éterniserait. Hier, pour la première fois depuis que le gouvernement de Sarraj, soutenu par la communauté internationale, a été mis en place à Tripoli, les troupes de l'Est et de l'Ouest se sont affrontées. Jusqu'ici, les deux figures principales libyennes, Sarraj et Haftar, qui ne s'entendent décidément sur rien, avaient tout de même réussi à éviter l'affrontement direct. La donne a changé. De lourds combats entre les deux camps ont éclaté à proximité de Tripoli. Les brigades de la ville de Misrata, qui ont la réputation de compter parmi les plus solides du pays, s'approchent de la capitale pour la protéger des ambitions du général. Si les brigades de Misrata et les forces de Haftar venaient à ouvrir le feu, le pays irait tout droit vers la guerre civile. Ce serait la troisième depuis la chute en 2011 de Muammar Kadhafi.
Les précisions à Tunis de Maureen Mercier.
En Algérie, les manifestations continuent malgré le départ du président Abdelaziz Bouteflika.
Ils étaient encore plusieurs milliers hier pour ce qui était le premier rassemblement depuis le départ du président. Cette démission allait-elle être suffisante pour les Algériens? La réponse est visiblement non. Leïla Berato, c'est le système global dont ils demandent désormais le départ.
Le slogan qui résonne, qu'ils partent tous, donne le ton. Boualem, commerçant, est venu manifester accompagné de sa fille adolescente.
Le président qui part, ça ne veut pas dire que c'est le système qui part. Pas du tout. Le système il est bien en place. Et juste avant la démission du président, tout a été mis en place pour la continuité du système. Donc nous on dit encore, le système doit partir et Gaid Saleh doit partir aussi.
Sur la rue d'Idouche Mourad, une immense affiche aligne les portraits des personnalités aux responsabilités. Ministres, militaires, hommes d'affaires, tous sont critiqués par les passants et les slogans se sont même adaptés à l'arrestation de Ali Haddad, l'ancien chef du patronat. Nassim, 33 ans, travaille dans le marketing.
C'est pas tant la personne qui a été rejetée par la population, mais c'est ce qu'il incarne. Il est l'incarnation d'un système de despote, de clientélisme, de corruption. Et donc forcément, il y a beaucoup plus de personnes qui sont ciblées que Bouteflika lui-même.
La démission d'Abdelaziz Bouteflika, la lettre où il s'excuse et les premières mesures d'ouverture pour les associations, tout cela semble insuffisant aux yeux des manifestants.
Reportage de Leïla Berato. Aux États-Unis, l'avionneur Boeing va réduire la voilure sur la production de ses 737 MAX. Une baisse de 20% pour cet avion toujours cloué au sol après les crashs de l'Ethiopian Airlines et de la Lion Air. Et les conséquences pourraient être encore pires au plan judiciaire, Maxime Tellier, puisque trois enquêtes sont ouvertes, dont une au plan pénal avec Boeing, mais aussi l'administration fédérale de l'aviation sur le banc des accusés.
La prestigieuse autorité de contrôle américaine de l'aviation et Boeing sont dans la même galère, accusés d'avoir construit et mis sur le marché un avion dangereux. Hier, le rapport des autorités éthiopiennes a clairement mis en cause le constructeur en concluant que le système d'assistance au pilotage censé protéger l'avion avait mis l'appareil en piqué et que les pilotes n'avaient rien pu faire. L'appareil a percuté le sol à 1000 km/h. Ce qui se profile, c'est donc l'examen de conscience et le procès de toute la filière de certification américaine, filière réputé mais qui a gravement failli. Xavier Tittelman est expert aérien au cabinet CGI Consulting.
Il y a plusieurs problématiques. La première, c'est que les autorités de régulation n'ont plus assez d'ingénieurs pour être capables de tout vérifier. Donc les autorités se contentent de vérifier et de valider certains systèmes critiques. Clairement, on s'oriente vers une crise systémique à la fois chez Boeing, qui a conçu un avion défaillant, et à la fois chez la FAA, qui n'a pas su contrôler correctement ses évolutions.
Et Boeing est accusé d'avoir minimisé les changements sur son nouvel avion pour mieux le vendre, car plus un avion est modifié, plus il faut former les pilotes, plus cela coûte cher. La FAA a validé cette stratégie, mais à quel prix? 346 morts et une catastrophe industrielle. Hier, le patron de Boeing a quand même promis qu'à l'avenir, le 737 MAX serait l'avion le plus sûr qui a jamais volé.
France Culture, il est 8h09, suite du journal de Maxime Fayolle. C'est le 21e samedi de mobilisation des Gilets jaunes aujourd'hui.
De nombreux rassemblements sont prévus un peu partout en France, même s'ils seront interdits à certains endroits, notamment sur les Champs-Élysées. Le mouvement cherche aussi en parallèle à se structurer et c'est le but de la deuxième assemblée des assemblées qui se réunit aujourd'hui à Saint-Nazaire. Des centaines de Gilets jaunes y sont même depuis hier, Anne Patinec.
La maison du peuple n'étant pas assez grande pour accueillir tout le monde, des tentes ont été dressées sur le bitume costumes du parking et des tables et chaises installées en plein air. Souvent un gilet jaune sur le dos, les participants se réunissent par petits groupes. Ils évoquent leurs actions dans leur ville ou village. Stéphanie est venue de Langon en Gironde.
Ça nous permet de voir qu'on n'est pas seul, que ça agit aussi ailleurs. C'est important pour la suite.
Car tous, comme Franck de Moselle, sont convaincus que le mouvement ne va pas s'arrêter là.
On a commencé au mois de janvier avec une assemblée avec 72 délégations de mémoire. Là, on est 200 délégations. La prochaine, combien qu'il y aura ? Ce sera dans combien de temps ? On ne sait pas, mais on sait que c'est pas prêt de s'arrêter. Contrairement à ce que veut bien nous dire le gouvernement. En fonction des secteurs, on ne fait pas forcément le même type d'action. Donc, essayer de mettre tout ça en commun, ça peut nous donner des idées. Et nous, nos actions, ça peut donner des idées à certains aussi. C'est le partage et puis l'unité, quoi, pour regarder loin devant, tous ensemble, dans la même direction.
Et pour Adèle, gilet jaune à Rungis, ce n'est pas la synthèse du grand débat prévu pour lundi qui changera quoi que ce soit.
C'est pas son grand débat que j'appelle moi personnellement une thérapie de groupe. C'est pas son grand débat qui va changer quoi que ce soit, parce qu'on sait très bien que ce qui va en sortir, ça va pas être. Moi, je suis prêt à mettre une pièce sur l'issue du grand débat. Il y aura pas grand chose.
En ce samedi, les gilets jaunes n'ont pas prévu de manifester à Saint-Nazaire. Ils vont continuer à réfléchir, à débattre et à s'organiser.
Anne Patinec. Une avancée dans le traitement des victimes de l'amiante. La Cour de cassation vient d'élargir la prise en compte du préjudice d'anxiété. Il sera désormais possible pour n'importe quel travailleur de s'en prévaloir. Une décision qui va dans le bon sens, mais qui doit encore se vérifier au cas par cas dans les tribunaux, selon Michel Parego. Il est vice-président de l'Association des victimes de l'amiante.
Cet arrêt corrige une forme d'injustice parce que le préjudice d'anxiété était limité aux personnes qui essentiellement bénéficiaient d'un système de pré-retraite à l'amiante. Donc c'était un critère administratif et qui n'était pas lié à l'exposition réelle des gens. Donc là, on va vers un système qui sera lié à l'exposition réelle des gens, mais le problème qu'il y a derrière et qui fait qu'on ne peut pas être entièrement satisfait par un tel résultat, c'est que ça va dépendre de l'appréciation souveraine de chaque tribunal. Et on sait ce que ça donne dans ce cas-là, c'est-à-dire que ça donne des résultats qui sont malheureusement arbitraires, c'est-à-dire que pour une même situation, un tribunal va donner le préjudice d'anxiété et puis un autre ne donnera pas le préjudice d'anxiété. Et ça, c'est une limitation de notre système judiciaire, c'est-à-dire notre système judiciaire tel qu'il est fait ne permet pas de traiter un contentieux de masse parce que il faudrait, pour traiter un contentieux de masse, mettre en place une structure qui fait que on puisse assurer que deux personnes qui sont dans les mêmes conditions ont exactement les mêmes droits. Et ça ne sera pas vrai.
Michel Parego, le vice-président de l'Association des victimes de l'amiante avec Théo Conscience.
Et on termine, Maxime, par la création d'un nouveau magazine réservé aux petites filles de 7 à 12 ans.
Il s'appelle Chica. C'est un magazine qui a pour objectif de déconstruire les stéréotypes de genre parce qu'il faut agir dès le plus jeune âge pour casser des codes encore trop ancrés dans nos sociétés. Le magazine a lancé une campagne de financement participatif qui rencontre un fort succès, Fiona Mogadam. Le concept de Chica a donc très vite séduit.
Chica est décrit par sa fondatrice comme le premier magazine d'empowerment des petites filles. C'est Elisabeth Roman qui en a eu l'idée. Après 10 années en tant que rédactrice en chef du magazine Science et Vie Découverte, la journaliste s'est aperçue que pour les filles, il est souvent compliqué de s'identifier dans la presse jeunesse. Elisabeth Roman.
Les magazines pour enfants, on a une proximité avec eux en les tutoyant. Et les phrases sont masculinisées. Je voyais que des filles étaient intéressées, mais qu'en même temps, on s'adressait pas directement à elles. Et puis aussi, j'ai fait le tour de la presse pour filles et je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose qui les sorte peut-être de quelque chose de mignon et doux.
Après un an de réflexion autour du projet, Elisabeth Roman s'est associée à 3 autres femmes pour lancer ce premier numéro à la couverture orange et bleue, une éditrice, une illustratrice et une psychologue. Le magazine sortira tous les 3 mois, vendu uniquement par abonnement pour des raisons économiques et écologiques. On y parlera science, art, sport et de femmes modèles pour les filles.
On va parler de femmes inspirantes du passé, mais aussi de femmes inspirantes de nos jours. C'est-à-dire que, par exemple, on a interviewé dans le numéro 1 Amandine Henry, qui est la capitaine de l'équipe de France de football féminin. Il va y avoir aussi des articles de connaissances autour de la science, de l'environnement, des animaux.
Elisabeth Roman espère ainsi éveiller les consciences chez les plus jeunes et aider les petites filles à se projeter sans barrière dans leur vie future.
Fiona Mogadam, entretien en longueur. longueur avec Elisabeth Roman à retrouver sur franceculture.fr. On termine avec le temps de ce samedi perturbé sur l'ouest du pays. De la Bretagne à la région PACA, le temps sera pluvieux. Des orages accompagnés de rafales de vent jusqu'à 100 km/h. Ailleurs, le soleil restera voilé. Les minimales vont de 0 à 7 en général, de 6 à 10 au bord de la Méditerranée. Les maximales cet après-midi de 15 à 20 degrés sur le nord-est, de 10 à 16 ailleurs.